Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule aujourd'hui avec des gens extraordinaires, une créatrice de fleuves d'emballage, Natacha Forel. Natacha, j'avais tellement hâte.
Et donc ce chocolat vient de nos plus grands cacaotiers.
La pêche, Natacha, prête oui. Pour l'intime.
Donc du coup, ça va être plus doux justement. Comme
tout à fait. Tout
c'était
fait.
Pas sur à l'intime.
Non, ce
n'est pas sur. Ou sur les herbes aromatiques.
Non. Nous sommes également avec Adrien Cahuzac. Adrien, bonjour.
Salut.
Et avec Flavie Briand. Flavie Briand, bonjour.
Pour parler de l'intime, j'ai voulu utiliser la voix Google. C'était pour que tout le monde se sente pas... plutôt bien et je... pas dérangé.
Pas si c'est une très bonne idée.
Je préfère ma voix habituelle.
Oui,
je la fais pas très bien.
Très bien. Alors, donc, c'est toi, Flavie, qui viens avec ce sujet de podcast. De quoi tu as envie de nous parler aujourd'hui?
Eh ben, d'un mec qui s'appelle Tim à l'intime.
Oh, et putain.
Pardon.
Cette vieille blague, là.
Va falloir qu'on s'entraîne à ne pas faire de blagues. Alors, en fait, j'ai des questions en ce moment sur cette notion, l'intime en jeu de rôle.
Ouais.
Notamment parce que, en ce moment, je suis sur des tables où j'ai envie d'explorer, parce que le jeu le permet, l'intime, la notion de l'intime pour mon personnage. Alors, je reviendrai sur ce que c'est. Ouais, je vais en parler maintenant. L'intime, c'est quoi? Ça peut être sa vie privée avec ses enfants, etc. Ou alors la construction de relations plus poussées, par exemple des relations amoureuses. Et même des choses comme, pourquoi pas aller jusqu'à ce que mon personnage, parler de ce que mon personnage pourrait faire avec l'autre personne dans l'intime. Les relations sexuelles. Et en fait, force a été de constater que sur une des tables, je trouve ça très compliqué à mettre en place, parce que je sens bien qu'il y a un peu de
gêne.
De gêne. Et il y en a une autre où ça pose aucun problème, et où même c'est... tout le monde se lâche, en fait. Et j'aimerais comprendre pourquoi.
Pourquoi il y a certaines tables sur lesquelles on ne peut pas parler d'intimité, et d'autres où on peut.
Ouais.
T'as observé ça sur...
Ouais. Oui.
Alors, est-ce que c'est pas tout simplement que autour de la table, il y a des gens avec qui tu es intime sur une des premières tables et l'autre avec qui...
Oui, mais il y a des. Par exemple, il y a aussi des tables en fait où j'ai beau être intime avec les gens, ça restera compliqué. Alors que d'autres non. Tu vois, d'autres où ça se met en place assez facilement. Ouais, je sais, c'est voilà.
Est-ce que vous avez déjà, rapidement, peut-être un petit tour de table, Natacha, Adrien, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de sensation avec certaines tables? Avec certaines tables dans lesquelles vous pouvez vous exprimer plus facilement sur des choses intimes et d'autres où vous ne pouvez pas le faire?
Oui, mais moi je sais déjà, enfin j'ai une réponse quasiment certaine.
Quasi-mensuelle,
tout à fait.
Quasi-menstruelle.
Oh.
Voilà, donc c'est bien. Bah, heureusement qu'on est sur le podcast de l'intime, du coup, c'est ça?
Oui.
Moi, j'y arrive plus facilement sur des tables avec qui je connais bien les joueurs et joueuses.
D'accord. Oui, donc...
C'est ça. Il faut que je me sente en confiance avec les personnes, que je sache qu'on cherche la même chose en jeu de rôle, que je les connaisse bien par ailleurs. Donc typiquement ma campagne Rosa Écarlate avec Céline ça fonctionne très bien, surtout que bah du coup vu qu'on était que deux, ben c'est venu vraiment très très naturellement. On joue à De Billets d'Acier aussi avec Céline et puis Antoine et Maxime, bah pareil ça se passe très bien. Quand la campagne de Blistage qu'on avait débriefé dans les micros, je crois.
Oui.
Pareil, on était tous en confiance, donc aucun problème. Il faut qu'on parle de Blistage en plus parce que c'est assez particulier sur les scènes d'intime justement ce jeu, mais moi c'est vraiment en fonction des personnes avec qui je joue. Et il y a eu aussi une évolution dans ma pratique du jeu de rôle, c'est-à-dire que je suis moins gênée maintenant et je suis plus à l'aise avec ça quand j'ai démarré.
Ok, d'accord. Aujourd'hui, tu as plus de facilité à parler d'intime dans les parties qu'avant. Y compris avec des gens avec qui t'es pas spécialement proche ou...
Non, ça reste quand même... Enfin, je sais pas. En fait, ça fait très longtemps que j'ai pas joué avec des gens dont j'étais pas très proche.
D'accord,
donc,
ok. C'est intéressant. Mais c'est intéressant aussi, le fait que tu choisisses justement de jouer avec des gens proches de toi. Est-ce que c'est pas justement pour ces raisons-là?
Oui, bah oui, parce qu'en fait c'est aussi le type de jeu qui m'intéresse et du coup et le type de relation autour d'une table qui m'intéresse et donc du coup
Et est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui dès la première partie en fait tu t'es dit avec ces gens-là je pourrais parler d'intimité? À l'inverse, tu vois, enfin Si t'as pas d'exemple, c'est pas la peine de chercher. Ouais. Adrien, est-ce que t'as des problèmes à parler d'intimité en jeu de rôle? Je me suis rentré.
Sans le détourner vers une blague.
Non, je réfléchissais. En fait, moi, c'est pas des scènes qui m'attirent particulièrement en jeu de rôle, de façon générale.
D'accord.
Donc.
Je me t'ai enfoncé ça dans le pied, les gars.
Dit-il en montrant un godemiché géant.
Espèce de scène. Un écrit de bois énorme, quoi.
Une
écharde énorme. Bon, ça n'a rien à voir avec le...
Oui, pardon, pas ton pied à tous, c'est un peu intime ce pied-là.
Je prends mon pied en podcast.
C'est ça, exactement. Donc non, moi, les jeux avec de l'intime, c'est pas des choses qui m'attirent particulièrement. Alors, ça veut pas dire que j'en fais pas et que j'apprécie pas de temps en temps, mais c'est pas un truc que je recherche activement. Et en général, j'ai l'impression que moi, quand ça va me gêner, c'est moins une question des joueurs autour de la table qu'une question de à quel point j'ai l'impression que les scènes que mon personnage va jouer... C'est des scènes que moi... en fait, à quel point je me révèle moi ou pas dans ce que je vais dire. Il y a des personnages desquels je vais avoir une certaine distance et j'aurai aucun problème à jouer l'intime le plus intime possible parce que j'ai une distance avec le personnage. Et à l'inverse... Mais ça, c'est dur à décrire de façon générale. J'ai l'impression que ça va être au cas par cas. Et il y a des fois où je vais être tellement proche de mon personnage ou... Ouais, où j'ai pas ce recul-là vis-à-vis du personnage que ça va me déranger énormément de les jouer.
Parce que justement, ça me fait penser à un truc dont je voulais parler, Adrien, parce que j'ai remarqué que quand on parlait d'intime, c'était très facile de glisser vers l'archétype de l'intime, c'est-à-dire de faire un truc vraiment pas du tout.
Oui.
Pas du tout recherché, en fait, de faire une scène lambda. Et souvent, si tu as de la distance avec ton personnage, est-ce que finalement, tu ne vas pas, quand tu vas créer une scène intime, en fait, faire un truc, oui, qui fera du stéréotype, en fait.
Ouais, c'est possible, ouais.
Alors, que je te comprenne bien, Fly. Ce que tu veux dire, c'est que tu penses qu'il y a une caricature d'intime
ouais.
en
oui.
jeu de rôle.
Oui,
il y a des jeux de rôle qui caricaturent un peu trop
oui.
l'intime et qui,
alors,
du coup,
je pense pas que c'est de la fausse intimité.
Pas
que c'est une ouais. caricature de l'intime, c'est que ne sachant pas comment gérer l'intime,
exactement,
l'intime devient
caricatural. Parce
c'est
que
pas
du
le
coup,
jeu qui encourage l'intime.
C'est un peu compliqué, donc on veut aller vite. Donc, du coup, on fait une caricature. Parce que je trouve aussi qu'il y a un petit souci. Enfin, on est à plusieurs autour d'une table, mais une scène intime se joue évidemment avec un resserrement, en fait. Je ne sais pas si ça se dit resserrement. Quelque chose de resserré sur un personnage qui finalement exclut un peu les autres autour de la table. Et donc, on peut avoir un peu l'impression que cette scène individuelle va les déranger. J'ai vécu ça, en fait, sur une table.
Les exclure de la partie.
Les exclure de la partie où il y avait...
On peut parler de focalisation interne,
ouais.
comme dans...
Et du coup, on a envie que ça aille vite, parce que déjà, c'est un peu compliqué d'en parler, puis ensuite, on n'a pas envie que les autres se sentent exclus. Et du coup, en fait, je me demandais, en fait, comment réussir à intégrer les gens, en fait, à cette scène. Ce qui était le cas, en fait, finalement, avec la table où ça s'est le mieux passé, quand on parlait de l'intime, où on allait vraiment à fond, c'est parce qu'autour de la table... Plus en fait on apprenait de choses, plus on était là, oh trop bien, qu'est-ce qui se passe? Et à chaque fois on en demandait plus en fait. Donc du coup il y avait une sorte d'élan de la table pour créer vraiment des personnages de plus en plus approfondis, de plus en plus travaillés, qui faisait que du coup on travaillait ces scènes-là et on n'avait pas l'impression d'être seul dans ces scènes-là. Mmh. Et du coup, je me suis rendu compte que en contrepartie, en plus c'était le même jeu, donc du coup c'est facile de.
Donc c'est Trip to Sky en fait dont tu
parles. C'est Trip to Sky, ouais.
Et donc on est d'accord que les scènes dont tu parles, ce sont les fameuses scènes de ressourcement.
Non, pas forcément. Okay. Des scènes, par exemple, là récemment, c'est quand mon personnage est dans un triangle amoureux malsain sur la table de Yann, où on est vraiment dans un élan où tout le monde se pousse à créer les histoires les plus incroyables possibles avec tous les PNJ qu'on trouve. Et du coup, il y a vraiment un élan, en fait. Et puis même, je me rappelle Yann qui dit « Hey, tu pourrais faire ça !» T'es là « Mais oui, t'as raison !» Et donc, on y va à fond. Et dans l'autre table...
Mais est-ce que c'est de l'intime ou est-ce que c'est...
Oui, parce que justement, on crée vraiment... Moi, j'étais par exemple avec...
J'ai l'impression que c'est une surenchère de drama et qu'on est un peu loin
non,
de...
Non, parce que là, pour le coup, il y a vraiment... Je suis avec mon maître. Et mon maître... c'était une histoire masochiste, hein, donc mon maître est vilain, méchant, tout ce qu'on veut, mais c'est mon maître. Alors, et il y a une relation vraiment chelou qui se met en place. Et donc du coup, il y a des scènes d'effleurement, des scènes où on est tous les deux, on se regarde dans les yeux et on reste à ne rien se dire. Et à côté de ça, Il y a un autre personnage qui vit des choses avec, avec son demi-frère, mais il n'y a pas de lien de sang, où il y a des scènes vraiment très belles, en fait, d'intime, et où on est tous suspendus aux lèvres des uns des autres, sans mauvais jeu de mots pour l'intime, à la table.
Il y a un plaisir de spectateur.
Ouais, exactement. On avait envie de voir ça, en fait. On avait envie de voir les histoires des personnages. Et justement, j'ai pas fait de caricature sur cette table-là.
En fait, dans la manière
que
tu as eu de le décrire, où tu disais que vous encouragez, ah oui, tu pourrais faire ça, etc. En fait, pour moi, typiquement, ce genre de phrase, je sais pas à quel point ça lie ou pas dans vos scènes, mais pour moi, c'est le contraire de l'intime, en fait. Parce que du coup, ce n'est plus vous qui jouez. Enfin, vos personnages deviennent des sortes de personnages de théâtre à qui tout le monde se dit, ah, c'est quoi la meilleure réplique qu'il pourrait dire ?
Alors que là, non, c'était plutôt créer la plus belle scène possible, mais vraiment à plusieurs. Mais du coup, on avait vraiment des scènes chouettes.
Pour moi, l'intime, c'est pas la plus belle scène possible.
Bah, cette scène intime possible, tu vois ce que je veux dire, sur ce qu'on jouait. Et là, c'était vraiment cool à jouer.
Natacha, je comprends tes questions, Adrien.
Ouais, en fait, je pense que là, la question, c'est qu'est-ce qui est facile à adopter ? Est-ce que c'est la posture d'auteur ou est-ce que c'est la posture sincère ? Vraiment, voilà. Et laquelle des deux, finalement, retranscrit le mieux l'intime ? Et j'ai l'impression que la posture d'auteur est plus facile à adopter, mais que finalement, c'est celle qui s'éloigne le plus de l'intime. C'est ce que tu es en train de dire, en fait.
Ouais, c'est ça.
Très très intéressant.
Et ça, en fait, c'est un peu ce que je disais aussi avec mon ressenti, c'est quand je suis capable de prendre du recul sur mon personnage et d'avoir une posture plus hauteur, je suis capable de jouer de l'intime.
D'accord.
Ouais. Mais si je me projette dans mon personnage et que je suis plus en train de parler, de plaider vraiment pour mon personnage, j'ai beaucoup plus de mal à le jouer parce que j'ai l'impression de moi me mettre, moi Adrien, dans cette situation. Et autant j'aurais aucun problème à discuter de choses intimes.
Adrien.
Moi, Adrien, avec des gens, autant le faire par le biais d'un personnage, je trouve que ça laisse des degrés d'interprétation. Je ne sais plus avec qui j'en parlais de ça. Je crois que c'est Fabien ou toi, Romaric, sur les jeux où on doit jouer un traître, par exemple.
Ouais.
Et tu te disais, je ne sais pas si les gens me jugent mon personnage ou si les gens me jugent moi, Romaric.
Ouais, tout à fait.
Et en fait, autant parler de l'intime, ouvertement, moi, en tant qu'Adrien, j'aurais aucun problème parce qu'en fait, je sais que je parle de moi et que les gens savent que je parle de moi. Autant en parler via un personnage, je ne sais pas à quel moment... Tu vois, enfin, cette ambiguïté va apparaître sur...
Et c'est intéressant parce que moi, j'ai eu des tables, en fait, où l'intime que je jouais, c'était plus en rapport avec des enfants que j'avais pu avoir dans l'histoire, etc. À Agone, notamment, où je jouais beaucoup, en fait, ces relations.
Et tu avais une personne à charge dans Agone qui était ton enfant.
Exactement. Et j'avais eu...
personnage.
Et du coup, j'avais eu des remarques genre « Oh, mais en gros, c'est l'émotion, c'est mignon », ou des trucs comme ça, était là, ben oui, mais j'ai une personne à charge, c'est normal que je le joue, je vais pas le jouer comme si j'en avais rien à foutre, genre vas-y bouge-toi, tu vois.
C'est une contrainte dans Agone, c'est-à-dire qu'il y a des traits négatifs que tu peux acheter qui te permettent d'obtenir des traits
ça
positifs.
Ça donnait énormément de points, une personne à charge.
Oui, mais ça c'est tous les JDR carat compétences avec avantages désavantages.
Et
ça charque pas ton personnage, parce qu'il y a beaucoup de traits négatifs qui charquent ton personnage. Donc là, la personne à charge, l'avantage c'est qu'en plus ça enrichit ton personnage. Donc non seulement ça t'apporte des points positifs, mais en plus tu trouves que du point de vue narratologique,
c'est genre, en fait, le vrai truc c'est le genre de désavantage dont en général le MJ ne sait pas quoi en foutre et donc il n'en fait rien.
Oui,
et donc,
alors...
t'as les points positifs sans les traits négatifs.
Ou alors, il peut l'inclure dans la narration, il peut lui arriver des choses.
C'est créateur de jeu.
Exactement. Donc,
qu'est-ce
qu'il
est arrivé des trucs à ce perso à charge ? Il était kidnappé quasiment à chaque scénario.
Pour avoir joué à des jeux où il y avait ce genre de trucs, t'avais tout le monde qui avait un ennemi juré, un enfant ou un vieux à charge, machin. En fait, au bout d'un moment, t'en as tellement que juste, tu fais non, mais c'est bon quoi.
Ouais.
On les met de côté, ils sont dans leur coin, et puis voilà, parce que sinon, on s'en sort pas. Enfin.
Je comprends aussi cette logique-là, mais ouais, c'est comme ce qu'on disait dans Agone, où on avait une caravane de PNJ constamment. Ce serait presque cru dans Hurlement, en fait, dans Agone.
On avait la caravane de on était un freak show en plus. Donc.
C'est vrai, c'était particulier. Bon, bref, donc ce que tu voulais dire, c'est que la vision que les joueurs avaient de cette relation n'était pas celle que toi tu attendais de la partie.
Exactement, parce que, en fait, pour moi, construire un héros ne peut être qu'un vrai héros ou une vraie héroïne s'il y a de l'intime, il y a un côté un peu anti-héros, ou alors tu vas quand même, malgré cette intimité qui te pousserait à rester chez toi, tu vas quand même sortir et aller sauver le monde. Et je trouve que c'est les vrais héros. Donc moi, j'ai du mal à construire quand je veux construire un vrai héros.
Là, tu m'as perdu, je vois plus le rapport avec l'intime.
C'est lié à l'héroïsme. Pour Flavie, si je te comprends bien,
ouais,
un héros ne peut pas être décorrélé d'une vie intime. Par exemple, si tu prends, par exemple, moi j'ai un bon exemple.
Moi, j'ai
ça,
Sam
c'est
Gamgee, moi. Mais
De quoi, t'as quoi ?
Sam Gamgee.
Sam Gamgee, très, bon, ouais, ouais. Oui, ok, très bon exemple. Je pensais à des personnages de Marvel aussi.
Aussi oui, ouais. Tout simplement, ouais.
Ouais. Qui ont plein de problématiques amoureuses du fait qu'ils doivent partir à la guerre et qu'en fait il y a des personnages
aller voir ta copine jouer au théâtre parce qu'il faut que t'ailles sauver le monde
voilà exactement ouais.
Et ça c'est certainement parce que je suis une fan de Spider-Man, du coup Spider-Man il a beau avoir Mary Jane, oui j'ai lu Spider-Man avant les années 2000 hein, donc je m'excuse d'avance, pour moi il n'est pas affilié à Tony Stark et donc
t'as encore plein de ses sécrétions dans les cheveux.
Tu vois, je pensais à un autre truc là avant que tu reprennes Fly sur les super-héros. Il y a aussi le côté comment les super-pouvoirs vont nuire à leur intimité. Par exemple, dans Watchmen, typiquement Manhattan et je ne sais plus comment s'appelle son ami qui ne peuvent plus avoir de relations sexuelles sérieuses parce que Manhattan est tellement dans le contrôle total de ses flux sensibles, électriques, etc. qu'il peut tout faire. Il peut même être en train de bricoler un truc dans son atelier en même temps qu'il lui fait l'amour et ça pose un certain problème dans sa relation. Relations intimes, etc. Donc, tu as aussi ça dans les super-héros qui peuvent arriver.
Et dans ce sens-là, en fait, moi, j'ai un problème, par exemple, avec le héros à la Luke Skywalker, en fait, qui peut partir de chez lui parce qu'il n'y a plus rien qui le retient.
Oui, tout à fait.
Moi, pour moi, le vrai héros, en fait, c'est presque un... Je sais pas, on tâtonne, on touche un peu l'anti-héros sans pourtant toucher l'anti-héros. C'est vraiment la personne, là, Ant-Man, qui, bon, bah, il a une fille, mais il va quand même falloir aller sauver le monde. Donc, du coup, il va perdre la garde de sa fille parce qu'il a dû faire un choix à un moment entre il avait pas la possibilité d'aller sauver le monde et il a pas pu aller récupérer sa fille à l'école et donc il en perd la garde. Il y a vraiment...
Il y a un épisode de Grey's Anatomy comme ça aussi.
Ouais. Et, ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est des vrais héros.
À l'aide.
J'ai beaucoup aimé Grey's Anatomy. Et voilà, moi j'ai du mal à construire. Souvent, on te demande de jouer un héros dans les jeux de rôle. Et donc, pour pouvoir me sentir proche de ce héros, j'ai besoin d'imaginer et parfois de jouer, en fait, ces scènes-là, qui, finalement, sont très peu préparées, finalement, dans beaucoup de jeux de rôle. Dans beaucoup de jeux de rôle, finalement, elles tombent comme un cheveu sur la soupe. Le MJ est un peu mal à l'aise, même quand c'est mon mari, Rome. Et du coup, on se retrouve, finalement, à transformer ça en une scène un peu fade ou en une pseudo-engueulade.
Alors, attends. Le MJ, il est au service de tous les participants autour de la table.
Exactement. Exactement.
Et donc si le MJ, parce que je vois très bien à quoi tu fais référence, si le MJ il sent que ça n'intéresse pas en fait les joueurs,
fait, mais c'est
si les gens sont pas venus ici pour ça, ou alors que les autres participants ne sont pas suffisamment proches de toi pour pouvoir vivre ce genre d'éléments, le rôle du MJ c'est d'y couper court parce que sinon il va mettre des gens mal à l'aise autour de la table.
Ah mais je suis tout à fait d'accord donc, et d'ailleurs finalement j'avais abandonné plus ou moins ces scènes, je pense que généralement je demandais des scénars solo pour pouvoir les jouer. Mais ou alors je l'écrivais et je passais ça au MJ.
Mais oui, ça se fait beaucoup ça aussi.
Mais le truc c'est que dans Trip to Sky en fait j'avais pris des habitudes de jeu avec une table où du coup on faisait ça devant ensemble et finalement je me suis retrouvée avec une autre table où même si le en plus ça permet de poser parce qu'on dans Trip to Sky on peut poser le problème de par exemple regarder dans les yeux, réussir à regarder dans les yeux son amoureux alors qu'on lui avoue un truc affreux, etc. Et donc c'est prévu, ça, c'est possible de jouer ça en fait.
Alors pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur Trip to Sky et le système qui est en train de décrire Flavie, j'ai fait une émission entière pour les voix d'Altaride, l'épisode numéro 109 dans lequel je décris le système et tout, donc je vous renvoie à cette émission avec Julien Poire, Globo et Willem.
Et au final du coup bah là c'est pas possible. Parce que je vois bien qu'en fait, autour de là, j'ai pas envie de leur imposer ça, tu vois. Parce que c'est pas le lieu à cette table-là.
Je pense qu'on en revient toujours au contrat social, en fait.
Exactement.
Ce qui est prévu par le jeu et ce qui est prévu autour de la table. Moi, c'est aussi pour ça que ça a fonctionné sur Beastage et ça fonctionne sur Deux Billets d'Acier. C'est parce qu'on est tous d'accord sur ce qu'on a envie de jouer, ce qu'on a envie de voir, dire, etc. Et je pensais aussi beaucoup à Jardin des Esprits de Fabien Ilvine, ce qui est un jeu...
Qu'est-ce qu'il y a ?
Je me disais que la limite entre l'intime et l'exhibitionnisme, c'était le fait que les gens autour étaient consentants ou pas pour te regarder agiter ta quéquette devant eux, quoi.
Ouais, alors, on va y revenir. Et Fabien a des images là-dessus qui sont très, très parlantes sur le lien entre l'intime et l'exhibitionnisme. Le fait de tout se déshabiller. On en avait parlé aussi dans le podcast sur l'hurlement. Ouais. Et on va peut-être y revenir tout à l'heure. Vas-y, Natacha, continue.
Et donc, Jardin des Esprits, c'est très intéressant de ce point de vue-là parce que c'est un jeu qui est spécialement prévu pour jouer de l'intime sans que ce soit caricatural et jouer les problématiques de résolution de l'intime et de prendre soin de l'autre et ainsi de suite.
Quelque part, le bac à sable narratif, aujourd'hui appelé le bac à sable du quotidien par ses auteurs autrices, eh bien, c'est un jeu qui, par définition, en fait, pousse à faire de l'intime. je pense.
Oui, c'est parce que Valentin T, ce qui l'éclate, c'est le drama. Et ouais. Du coup, ça vient de là aussi, ouais.
Et le drama du quotidien, tu vois. Ouais. On se retrouve, on est un petit peu dans ce que Flavie décrivait
tout
à l'heure.
C'est un peu ce que je décris sur l'intime, au final. Ouais. C'est un peu ce... Il y a les moments un peu plus intimes.
On ne va pas confondre drama et intime. Hein,
oui, tout à fait.
Ouais. Oui, c'est encore autre chose. Mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant.
Tu peux avoir du drama, là, Hélène Roy et compagnie.
C'est vrai, mais il y a un glissement chez Flavie. Elle te dit, voilà, pour moi, l'héroïsme... Enfin, pardon, l'intimité d'un héros est une condition de possibilité d'émergence de l'héroïsme. Donc là, du coup, pour Flavie, il y a forcément un glissement.
Oui, puis un glissement vers le mot quotidien m'intéresse beaucoup parce que finalement, ce qui m'intéresse aussi, c'est de jouer ces scènes finalement de petits quotidiens.
Ça apparaît beaucoup dans Jardin des Esprits, notamment, par exemple, aussi, qui n'est pas un bac à sable du quotidien, mais qui demande justement de passer du temps simplement à coudre au coin du feu, simplement à discuter des choses comme ça, enfin vraiment prendre du temps quoi.
Et finalement.
Du coup, si tu cours au coin du feu, quand est-ce que tu gagnes de l'XP?
Mais finalement, il y a aussi un petit problème, je pense, et qui me concerne moi, c'est pour ça que j'en parle, de polysémie du mot héros dans le contrat social. Quand on dit on va jouer des héros, je pense que tout le monde n'a pas la même idée de ce que c'est un héros en fait.
Oui. Alors, oui, ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. Ceci dit, dans le contrat social de Trip to Sky, parce que, en fait, ce qui me dérange, c'est que là, j'ai du mal à décorréler la discussion qu'on a en ce moment, là, Flavie. Il va falloir aussi, à un moment donné, qu'on l'ait autour de Trip to Sky et du dispositif qui est mis en place. Parce que Trip to Sky pose sur la feuille de personnage l'existence d'un personnage dont tu es éperdument amoureux. Donc, il pose. Et encore une fois, il y a ces scènes de ressourcement dans lesquelles on passe en focalisation interne sur les personnages. Donc si vous n'avez pas encore joué à Trip to Sky, j'imagine le podcast sortira, le jeu ne sera pas encore sorti, donc et sachez que les scènes de ressourcement sont très très proches des scènes aussi d'introspection de Vademecum qui est pareil un petit peu. Donc, c'est juste des scènes où on passe en focalisation interne, on peut parler de son personnage à la troisième
à la première personne.
Pardon. Et du coup, on a le droit aussi de décrire ses pensées, ce qui n'est pas le cas dans le jeu de rôle. Parce qu'en général, dans le jeu de rôle, on se contente de faire des propositions sur le contenu fictionnel observable, sur ce que les autres, sur ce qui est partagé. Donc, par définition, ce qu'on pense n'est pas partagé immédiatement. C'est aussi un des trucs de la focalisation interne. Tout ça est encouragé par le système de Trip to Sky. Donc, on a un jeu qui bel et bien encourage le type d'héroïsme que toi, tu veux voir soutenir.
Exactement, c'est pour ça que j'aime beaucoup jouer à ce jeu.
Voilà, mais il y a des tables dans lesquelles ça échoue. Et je pense avoir plein d'éléments de réponse pour pouvoir répondre, mais sur Trip to Sky. Oui. Mais est-ce que c'est le thème de ce podcast, tu vois? C'est ça la question.
Puis, comme je te dis, hein, moi, j'ai eu ces questions aussi. C'est juste qu'en ce moment, je me suis vraiment posé ces questions, mais j'ai ces questions depuis mes parties d'Agone, en fait.
D'accord, ouais, très bien.
Okay. Ou Agone, où à chaque fois, j'avais... Des gros backgrounds avec plein de persos que Yann se plaisait à défoncer.
Charcler. Mais c'est l'objectif.
Mais c'est l'objectif d'Agone. Enfin, voilà, et c'était intéressant de voir aussi mon perso réagir à tout ça. Et mon perso se faisait charcler, en fait, son histoire personnelle, mais j'avais à chaque fois pas vraiment de moment où je pouvais l'exprimer.
Regarde dans Sens, par exemple. Si on regarde Sens, la fiction de Sens, donc on rappelle que Flavie est celle qui joue Lina de Cali dans Sens. Il n'y a quasiment que toi et Cédric qui aviez des histoires d'amour, donc Agonis et Lina qui avaient des histoires d'amour dans notre table originelle de Sens. Et je me souviens très bien que quand tu voulais avoir des histoires d'amour ou des trucs comme ça avec Météor, il y avait autour de la table des joueurs qui étaient là en mode « Oh non, mais non, c'est pas intéressant, ça nous intéresse pas, on veut débattre de la fin de Miphos Quadria, on veut, etc. » Alors que pourtant, dans Sens, si on regarde l'œuvre telle qu'elle est écrite, c'est central.
Bah oui, sans même parler des bugs.
Là où je veux en venir, c'est que un jeu peut encourager ce que tu recherches, Flavie, et pour autant une table bloquée sur le jeu.
C'est pour ça que je parlais à la fois de contrat social du jeu et de contrat social autour de la table.
Ouais. Exactement.
Alors, parce qu'il y a de la pudeur aussi, je peux le comprendre. Alors, c'est normal.
Alors ça, c'est un truc très intéressant, Natacha. Tu me permets de faire une petite parenthèse qui est dans la cellule. On n'est pas très très clair là-dessus, mais il faut savoir que le contrat social tel qu'il est postulé par les partisans de The Forge, c'est le contrat social de la table et toujours le contrat social de la table. Le contrat social n'est pas présent dans les règles du jeu. Ça, c'est un truc qu'on fait, que nous, à la cellule, on a complètement confondu, c'est-à-dire en disant évidemment les règles encouragent à adopter certaines formes de contrat social. Ça, il n'y a pas de problème.
Une des règles du contrat social qui te font confondre les deux, Natacha, c'est on est là ce soir pour jouer à ce jeu. Et donc, dans la suite de règles du contrat social, on sous-entend que les règles du jeu font partie du contrat social, alors que ce n'est pas ça. L'élément de base du contrat social, c'est
une des règles de base, c'est on est là ce soir pour jouer à ce jeu.
Exactement.
On va y jouer dans ce contexte, on va faire attention à ça, ça et ça. Et ces éléments-là sont rarement présents dans le, alors, dans le dispositif.
Le truc, c'est que je comprends, je pense que Natacha n'est pas une lectrice de The Forge, tout simplement. Elle a appris de la
Forge. Non, moi, je sais que je leur dois beaucoup dans ma pratique de jeu de rôle, mais j'ai pas.
Mais comme beaucoup.
J'ai eu droit à la vulgarisation.
Voilà, par Frédéric, Fabien, La Cellule et compagnie. Donc, en fait, et Christophe Buckley, bien sûr, que j'ai oublié de citer dans cette boucle, mais qui est très, 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 très important. L'élément essentiel, c'est que le contrat social, c'est la façon dont ce soir on utilise les règles d'un jeu, les règles qui sont dans la base. Donc, un jeu, dans la base, il n'y a pas de contrat social. C'est ça qui est fou. C'est dans la base, il y a des règles. Le contrat social, c'est ce qui va être mis en place ce soir et la façon dont on va utiliser les règles qui sont contenues dans le jeu pour jouer ce soir. Donc, ça veut dire que on peut dire de Trip to Sky et de Sens qu'ils encouragent, que les jeux, les règles, encouragent l'émergence d'intimité. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a certains contrats sociaux établis sur la base de ces deux jeux qui échouent à mettre en œuvre cette intimité. Est-ce qu'on
on
suit là-dessus ?
On est d'accord.
Ok. Et donc la question qu'il va falloir qu'on se pose ce soir, c'est pas tant est-ce que les jeux y permettent, oui ou non, de faire émerger l'intime, mais c'est quel genre de contrat social permet de faire émerger l'intime. Et c'est bien différent, vous voyez. On n'est pas en train de parler de ce qu'il y a dans les bases des jeux. On est en train de parler de qu'est-ce qui à la table. Tu vois, on est dans le concret, dans chaque partie. Il faudrait étudier chaque partie à ce moment-là. Et là, c'est très difficile de répondre.
Alors, oui et non, parce qu'en fait, les exemples que tu donnes de Sens et Trip to Sky, je ne suis pas tout à fait d'accord de les mettre dans le même panier. Hein, parce que dans Sens, il y a des éléments de fiction à la lecture du livre qui sous-entendent que cette question-là est importante.
Mais dans Trip to Sky aussi.
Alors non, attention, mais quand tu crées ton personnage, il n'y a rien qui oblige ça, en fait.
Relis Sens Mort. Hein.
Non, mais attends, c'est Sens Mort, Natacha. Sens Mort, t'as déjà commencé, t'as déjà fait 10 parties avant d'arriver à Sens Mort. Donc ton contrat social, il est déjà établi.
Je suis d'accord avec Adrien que Sens Renaissance est moins, de ce côté-là, nettement moins le
Sens
jeu.
Sens Renaissance, tu joues des héros de films d'action.
Voilà, c'est plus... Voilà, tout à fait, je suis d'accord avec toi, Adrien.
S'il y a de la famille, c'est sympa, ça fait un petit prétexte pour le MJ, mais avant tout, t'es là pour péter la gueule du méchant.
Bon. Le problème de Sens, c'est qu'on a tendance à mettre Sens dans un seul et même paquet, alors qu'il y a 6 jeux différents. Enfin, il y a 5 jeux différents, vraiment. Tu vois, Natacha. Je suis d'accord. Si on prend Sens, la majeure partie des choses qu'on va jouer dans Sens, on sera après Sens Mort. Donc, il y aura du drama, il y aura de l'intime, il y aura tout ce que tu veux.
Ben oui et non.
La majorité.
Oui et non, parce que c'est un des reproches qui fait à Sens. Hein. C'est que vu que quand tu changes de bouquin, tu changes de contrat social, tu devrais changer de contrat social parce que tu joues pas exactement au même jeu. Il n'empêche que les gens ont pris l'habitude de jouer à Sens Renaissance.
T'as pas tort.
Et il y a des éléments auxquels ils s'habituent. Donc, pour moi, Sens est un mauvais exemple là-dessus.
Oui, tout à fait. Ah, je suis d'accord.
Peu importe, c'est un jeu qui a son histoire. Voilà. Mais,
qui est vieux maintenant aussi.
Et donc, je veux bien que dans Trip to Sky, il y ait cet aspect-là qui soit mis en avant. Mais ta généralisation de pour un héros, il faut qu'il y ait ça derrière, elle n'est pas vraie, elle est vraie dans ce jeu-là.
Là, tu parles à Fabien.
Non, je ne suis pas d'accord. Mais non, ça, c'est une critique
j'ai
littéraire
bien
d'aspect.
Moi,
oui, et puis, c'est un aspect, une considération d'ordre narratologique, en fait.
Ok, sauf qu'en fait, la plupart des gens qui jouent de rôle, ils n'ont pas fait d'études de narratologie.
Non, mais ils ont vu des films, ils ont vu des séries, ils ont vu des. Tu vois, enfin, je veux dire.
Moi, je peux te citer plein de films où le héros, le drama derrière, il est discutable.
Et après, on en vient à ce que Flavie disait à l'instant, c'est pour Flavie, c'est ce qui est important.
Ouais,
mais
en fait, moi, ce qui me dérange à faire ça, c'est qu'on parle de l'intime que via le biais du héros.
Bah, c'est pour ça que je voulais parler de Jardin des Esprits, parce que dans le Jardin des Esprits, tu joues pas des héros, justement.
Oui, mais en fait, que tu joues des héros ou pas des héros, en fait, pour moi, c'est un élément, tu vois. Enfin, c'est une des facettes de jouer de l'intime, mais c'est...
Bon, enfin, le terme héros, de toute façon, là, il pue du cul.
Ouais,
il
voilà,
va pas nous
ça,
permettre
ouais.
d'avancer dans le débat. Parce que, en fait, chacun a un peu son. Parce que, par exemple, moi, je suis pas d'accord avec toi, Natacha, quand tu dis qu'on joue pas des héros dans Jardin des Esprits. Parce que pour moi, à partir du moment où les conditions que Don Fly parle se réalisent,
alors,
en fait,
j'ai pour en avoir discuté par écrit avec Fred Sintès, qui disait que c'était un jeu épique. Je vais pas avoir à nouveau la même discussion avec toi.
Oui,
non, ce n'est pas un jeu épique au sens de l'épopée, et
d'accord.
Donc c'est pas des héros.
Des
héros du quotidien.
Grec,
ok, d'accord.
Mais
oui,
bien sûr. Mais tu vois le désaccord qu'on a, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on est plus enfin, c'est pas. C'est là encore une fois, on n'est pas d'accord sur le terme héros. C'est-à-dire que toi, tu l'entends au sens de la littérature classique. Où, alors que nous, on est en mode série, là, en fait. On entend le héros.
Buffy contre les vampires, même, j'ai envie de dire.
Populaire, tu vois. Enfin, donc, toi, tu as une version beaucoup plus raffinée de. Du coup, toi, tu fais la distinction, par exemple, entre le protagoniste et le héros, par exemple, toi.
Oui, bien sûr.
Alors que nous, tu vois, avec Fabi, c'est
nous, on s'en balaye. Enfin, moi, quand je parle de héros en jeu de rôle, moi, j'ai.
Non, mais parce que. Mais je sais bien. Mais je sais bien. Bah, alors, du coup, je vous invite à aller voir la très bonne série de vidéos sur le héros de la vie. De la chaîne YouTube Le Moc, LE plus loin MOCK, il y a toute une série de vidéos sur le héros, et où justement ils font tout un schéma qui rappelle toutes
le grand oiseau là, celui qui a un long bec.
Non, ça c'est le héron.
Ah merde.
héron héron. héron petit patapon,
le super héron. Okay, ouais, très bien.
Voilà, et donc ils font tout un schéma sur les différents sens de héros, et notamment il y a effectivement des fictions où c'est héros égale protagoniste et ils prennent la métamorphose de Kafka. Le personnage principal dans la métamorphose de Kafka, c'est tout sauf un héros, mais ça reste le héros de l'histoire au sens où c'est le protagoniste principal.
Excellent, c'est excellent. Mais tu vois, nous on n'est pas dans ces il faut en avoir des distinctions dans la tête pour écrire les fleuves des paquets de céréales et tout ça, hein, Natacha.
Les céréales sont les héroïnes de votre petit déjeuner.
en tout cas, les protagonistes à digérer.
On n'est pas du tout dans cette distinction-là, tu vois. Nous, on est plus basique de ce côté-là. Ok. Donc, mais c'est bien d'apporter cette nuance. Alors, sans rentrer dans le débat justement sur est-ce que l'intime est lié au héros ou pas. On a eu ce débat. Je pense que là, il faut qu'on referme cette page. Est-ce que je voudrais repartir sur cette base que les règles d'un jeu ne peuvent pas forcer l'intime à la table. Ça, c'est très important pour moi. Et que c'est le contrat social, donc la façon dont on va mettre les règles le soir même. Alors, ok, vas-y, Adrien.
Ben, je ne suis pas d'accord non plus. Typiquement, dans le jeu, there is absolutely no triggering material.
This game
contains absolutely no triggering material. Tu ne joues que ça.
Eh bien, moi, je n'en suis pas certain. Je pense qu'il existe un contrat social pour jouer à ce jeu dans lequel, en fait, les gens passent complètement à côté du jeu. On peut toujours passer à côté d'un jeu, Adrien. C'est forcément le contrat social qui
mais
va...
En fait, j'ai...
Ok, mais alors, je suis d'accord avec toi.
Ce que je dirais, c'est que les jeux ne peuvent qu'encourager de l'intime,
voilà.
Tout comme les jeux ne peuvent qu'encourager de jouer à ce qu'ils contiennent. Oui. Tu vois. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui peuvent jouer à sens en jouant qu'avec des figurines,
en
jetant toutes les règles, en pissant sur la table. Enfin,
moi j'ai essayé de mettre de l'intime dans Cthulhu, divulgachi, ça n'a pas fonctionné.
Oui, tout à fait. Ok.
Ouais, c'est vrai que dans Cthulhu c'est déjà un peu plus compliqué.
Ok, donc c'est vrai, t'as raison.
Salut monstre.
Ok, c'est vrai.
Tentacules.
Je suis d'accord. Si ton filtre c'est oui, mais le contrat social peut toujours faire qu'il n'y en a pas. Je te dis, mais ouais, avec n'importe quel contrat social, tu fais tout sauter, tout et n'importe quoi.
Mais c'est pour dire que l'intime, c'est l'affaire de la table, en fait. C'est moins l'affaire des règles et donc des auteurs de jeux que tables.
En fait, toute la pratique du jeu de rôle n'est que l'affaire de la table. C'est-à-dire que les jeux vont encourager des choses.
D'accord, ok.
Et il faut que la table soit d'accord pour y jouer. Okay. Et l'intime est particulièrement problématique parce que c'est un des problèmes typiques, dire à des gens, alors on va jouer à un jeu où tu joues quelqu'un qui est en phase terminale de cancer, dont les deux enfants étaient placés à la DAS et
les cordes sensibles.
Voilà. Alors t'as deviné.
Ce que j'essaye de vous dire, c'est que du coup, ce dont on va parler là, c'est de table. Tu vois, c'est ça.
C'est de l'acceptabilité des joueurs de jouer au jeu qu'on leur propose.
Ça, c'est plus général que l'intime. De jouer au jeu intime qu'on leur propose. On va parler d'intime là.
Oui, mais en fait, pour moi, le fait de pouvoir jouer de l'intime, c'est la première barrière, c'est faire accepter aux gens que on peut jouer sur de l'intime.
Ça, c'est très intéressant. Voilà.
Ça me fait penser à un truc et j'y avais pas pensé avant le podcast. Je suis très contente de vous avoir demandé ça comme podcast. En fait, je me rends compte que un des jeux où j'ai le plus parlé d'intime et où vraiment on était tous allés à fond, alors que bon, sur le principe, ça se présentait pas comme ça, c'est Centipede Boyfriend.
C'est ce que j'allais dire.
Oui, mais franchement, je pense que c'est au cœur du jeu.
Ouais.
Même,
ouais.
Alors, j'y ai pas joué.
J'ai fait des descriptions de ouf où on allait chercher des glaces, on se regardait dans le blanc des yeux et tout. Et tout le monde autour, finalement, encourageait ça tout en
c'est un jeu sur la relation. C'est entre autres, pas seulement, bien sûr, et c'est pas le cœur du jeu, mais c'est un jeu entre autres sur la relation amoureuse. Et
ouais.
C'est clair.
Ouais, tout à fait. Et sur
le consentement.
La dernière scène, je me rappelle qu'on avait joué ce jour-là, c'était quand même, elle finissait au lit où ils découvraient leur corps et tout. Je sais plus qui l'avait. Bon, à côté de ça, t'as tout le monde qui a l'air.
Tu vois,
et en fait, tout le monde était d'accord que là, il allait falloir vraiment décrire de l'intime,
ouais.
Alors que on faisait des trucs autour un peu foufou.
Mais c'est, en fait, bon... Exactement. Mais en fait, là, t'es en train de rentrer dans le cœur du problème du sujet du podcast. C'est que, en fait, l'intime, quand le contrat social, quand les règles sont obvious pour mettre en place un contrat social dans lequel on va parler d'intimité, ça ne pose pas problème. Ça, en fait, c'est pas, en tout cas, c'était pas le problème du podcast tel que tu voulais le présenter. C'est pour ça que moi, je voulais te proposer de rebaptiser ce podcast le surgissement de l'intime.
Oui, tout à fait.
Dans des parties de jeux de rôle. Parce que si tu parles juste de l'intime, évidemment, il y a des règles qui, comme l'a très bien dit Adrien tout à l'heure, quand j'ai présenté la distinction entre règles et contrat social, évidemment, il y a des règles qui, si tu les acceptes telles qu'elles sont, tu acceptes aussi que dans le contrat social, il va y avoir de l'intime. Mais toi, c'est pas de ça dont tu voulais parler quand on a pris les micros. Après, on parle de ce qu'on
si,
veut dans les micros.
Justement, parce mais... que, en fait, ce qu'on vient de dire là me fait penser à un truc qui est très très important en fait. Et il y a un lien que je peux faire entre Centipede Boyfriend et la partie que j'ai faite avec Yann de TTS.
Oui.
C'est l'acceptation du rire en fait.
Ah putain. Donc tu parles bien de qu'est-ce qui amène le surgissement
exactement.
De l'intime.
Mais sur le fait de pouvoir en parler. Mais je suis d'accord.
Oui, oui,
mais je n'ai pas dit que j'étais pas d'accord. Juste dans Centipede Boyfriend, tout le monde va rire et plus tu vas aller dans un truc intime, plus va y avoir un décalage, plus tu vas t'autoriser à rire. Et souvent dans le jeu de rôle, le fait de pouvoir rire même dans n'importe quelle scène, même dans des scènes tragiques, en fait, ça permet de dégonfler la baudruche entre guillemets et c'est un truc qui permet d'être encore plus dedans. Sauf que très souvent en fait, et dans TTS quand je l'ai joué avec dans Trip to Sky quand j'ai joué avec Yann, il y avait des rires en fait autour de la table aussi quand on jouait de l'intime, mais qui n'étaient pas des rires. C'est, du coup, c'était pas, fallait, on
j'ai
le prenait
un contre-exemple,
pas mal.
Hein,
oui.
Parce que
moi,
y a
je
une...
suis pas d'accord avec le fait que le rire soit toujours positif.
Non, non, mais quand je l'ai vécu, quand ça s'est bien passé, c'était en effet le cas. Mais parce que c'était presque un rire de ouais, c'est cool, vas-y, tu vois. Alors que souvent, quand il y a une scène d'intime, les gens n'osent rien dire et rien parce que on se sent un peu enfermé, on n'ose pas dire quoi que ce soit parce qu'on sait pas comment la personne va réagir.
Mais, en fait, moi, Adrien, j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'en fait pour toi une scène d'intime déjà en fait ? Parce que pour qu'on en rie, moi déjà c'est pas de l'intime.
Non,
en fait.
Elle a pas dit qu'on riait de la scène d'intime. Elle a dit que les tables dans lesquelles on pouvait rire facilement, eh bien c'était aussi des tables dans lesquelles l'intime pouvait survenir. C'est pas la même chose.
D'accord.
Elle a pas dit que c'était les scènes d'intime qui faisaient rire parce que quand
d'accord,
ils avaient les scènes d'intime avec Anne et tout,
c'est comme ça que ça sonnait,
ils riaient pas
disais.
Du tout. Non, je pense que ce que t'as en tête, Flavie, et à voir comment ça résonne avec ce que tu veux dire, Adrien, c'est qu'en fait, dans le fond, les gens avec qui on peut rire facilement et rire de tout, entre guillemets, eh bien, c'est souvent des gens avec qui on est proche et avec qui, du coup, on va pouvoir aussi beaucoup pleurer et, dans un sens, beaucoup se livrer. Le rire, en fait, pour moi, Flavie, hein, c'est juste l'un des signes que, du point de vue émotionnel, on peut se permettre tout et n'importe quoi avec les gens autour de la table.
Oui, c'est vrai.
Et donc, on va pouvoir pleurer aussi. Moi, j'aurais aucune gêne à pleurer devant Adrien et Natacha. Mmh, parce qu'aujourd'hui, on est plus que proches, tu vois ce que je veux dire ? Pareil, de rire de n'importe quoi, une blague qu'on ne pourrait pas faire dans ses micros et qui nous ferait rire. Et, oui, et c'est la différence aussi, c'est que là, on est en public. Hein, y a des gens qui nous écoutent, tu vois. Est-ce que, par exemple, le podcast est un bon...
T'es sûr ça fait des années que je viens ici. Tu m'as toujours dit, non, mais t'inquiète pas, personne n'écoute.
je ne discuterai pas de ça avec le tour de minute pour toujours. Il n'en est pas question, Adrien. Donc, toujours est-il qu'on voit bien que, par exemple, évidemment, le dispositif du podcast est un très mauvais dispositif pour le surgissement de l'intime.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'on est, on ne sait pas qui nous écoute. Donc, ce que tu veux dire par « on pouvait rire facilement », en gros, c'est « on était… » Vas-y, vas-y.
Oui, oui et non, parce
oui
que
non, vas-y.
Contrairement, par exemple, à la vidéo où il y a la caméra qui est là pour nous rappeler H24 que c'est vu, moi, il y a des conversations qu'on a eues ici, je ne suis pas sûr que si ça avait été filmé, je les aurais eues.
D'accord.
Donc le...
Mais ça rajoute un sens en ouais. plus, la caméra, la vidéo.
Ouais.
Et regarde, même dans Love Story ou les expériences de télé-réalité, où la caméra est posée en permanence, les gens disent à la fin qu'ils les avaient complètement oubliés et qu'au final, ils avaient des scènes intimes, etc.
Ils disent
Non, mais ouais. alors, Striptease, reprenons, alors peut-être un sujet un peu plus crédible ou sérieux.
C'est pas ça, c'est qu'en fait, pour avoir vu...
L'émission en belge. Hein.
Il y a eu un document fait par une nana qui participait à des téléréalités.
Pour avoir vu une vidéo YouTube d'une nana, une ancienne candidate de Secret Story, qui, quand son contrat de confidentialité a pris fin, a pu parler de vraiment ce qu'elle avait vécu. Je t'invite
c'est pas ce qu'elle décrivait. Quoi.
Ouais, je t'invite à prendre beaucoup de précautions sur. C'est pas ce qu'elle décrivait, c'est que en fait, il y a une manipulation des personnes à l'intérieur par des voix qui sont vraiment absolument inhumaines. Enfin voilà.
Il les faisait picoler.
Ils l'ont empêché de voir un médecin alors qu'elle était malade. Enfin des trucs. Et il y a une manipulation ensuite des images bien évidemment puisque
Oui, bien sûr.
Il
non,
coupe.
Okay,
donc du coup.
C'est un mauvais exemple. Ouais. Ce que j'essayais juste de dire, c'est que à force d'avoir des caméras posées en permanence sur soi, on finit par les oublier et par se livrer quand même. Et ça, tous les gens qui font du journalisme, justement, de type Striptease, donc l'émission belge Striptease, le savent, tu vois, il y a un moment donné où tu oublies la caméra. Il y a bien des hommes politiques qui se sont fait piéger par ça dans les années 2000. Hein. Maintenant, un peu moins parce qu'ils sont briefés en com. Mais on oublie facilement la caméra. Parenthèse refermée, voilà. En tout cas, on est d'accord que dire les choses, enfin, être en public, c'est déjà un gros frein au surgissement de l'intime. Et inversement, je pense que être en privé, être certain que tout ce qu'on va se dire ne sortira pas des murs, voilà un élément de contrat social qui me semble être propice au surgissement de l'intime.
Tout à fait.
Voilà, c'est... Et quand tu dis, à mon avis, le rire, ce n'est qu'une des manifestations du fait que tu es intime avec les gens. Tu vois, Fly, tu prends l'effet pour la cause, en quelque sorte.
Ouais.
La véritable cause du truc, c'est le fait que tu te sentes proche des gens et tu te sens capable, avec ces gens-là, de dire n'importe quoi. Tu sais que, quoi que tu dises, cela ne sera pas retourné contre toi,
tout
ne
à
sera
fait.
Pas utilisé contre toi à d'autres fins que celles que tu avais... qui était celle de la propos de la partie, en dehors de la partie en tout cas. Voilà.
En gros, tu te rapproches doucement de ce que faisait remarquer Fabien sur je sais plus quel jeu, qu'en gros, si on jouait tous tout nus à un jeu, mais qu'il y a un mec habillé qui nous regarde, ça pose problème. Quoi.
Ça pose problème. C'est du voyeurisme.
Il
ne
faut pas qu'il y ait de dissymétrie dans la révélation qu'on fait ou dans notre...
Voilà.
Ouais, à quel point on s'expose, à quel point on est vulnérables les uns aux autres.
Voilà.
Ouais. Et d'ailleurs, la table où ça se passe, où on a pu explorer l'intime à Triple Skate, parce que l'autre table se passe très bien aussi, c'est une table où tout le monde avait à cœur de développer l'intime de son personnage. Mmh. Donc on savait que dès que tu avais fini ta scène, l'autre allait démarrer son truc. C'était assez... Alors que dans l'autre table, en fait, je suis la seule à avoir une histoire intime.
Oui, tout à fait. Alors, pour des raisons qui sont un peu contingentes aussi, c'est
tout
qu'ils ont fait des personnages qui n'ont rien à voir.
Exactement.
Il y en a un, c'est un scientifique, il a tout trippé sur la science. Il y en a un qui a tout trippé sur la musique. Et si j'ose dire, tu vois, ils n'ont pas à tripper sur les relations comme toi, alors que toi, tu as un personnage très relationnel. Donc là, c'est un peu aussi. Je veux dire, c'est pas de la. Là, en l'occurrence,
ah non,
c'est
mais
pas
c'est
de la.
Voilà. J'ai pas dit que c'était de leur faute, c'est juste
voilà.
que je m'interroge.
Mais. Moi, alors, autre phénomène intéressant...
Et puis, il n'y a pas de faute à avoir. Enfin, tu vois, c'est juste qu'ils ont créé les personnes qui les beautés. Enfin,
tout à fait.
T'as le droit de ne pas avoir envie de jouer ça.
Ah ouais, c'est tout
exactement.
À fait.
Exactement. Alors, autre élément que je voulais ajouter, verser au pot commun là, de la réflexion à ce sujet, c'est la dissymétrie entre les relations. Moi, je pense... Bah, par exemple, il y a un problème aussi dans la table de Trip to Sky qu'on a, là, la grande campagne principale, c'est que tout le monde ne se connaît pas au même niveau.
C'est vrai.
Par exemple, nous deux, on va être évidemment, on est très proches. Johan et Valentin sont proches, très proches l'un de l'autre, mais Jérémy est plus proche de moi qu'il ne le serait de Valentin, par exemple,
oui.
Parce qu'ils se connaissent depuis moins longtemps, tu vois, c'est juste... Et donc, ces dissymétries relationnelles-là,
Je pense que c'est la première table qu'on a avec eux aussi. Si on avait joué à d'autres jeux avant, il y aurait eu d'autres choses qui se seraient.
Exactement.
Ouais, ouais.
D'ailleurs, au terme de la campagne, à mon avis,
oui,
on va beaucoup plus loin.
Je suis en train de. Mon esprit s'égare un petit peu. En fait, je me rends compte que peut-être un élément qu'il faudrait avoir en tête quand on parle d'intime dans le jeu de rôle serait de se rapprocher un peu du GN et de voir ce qu'ils font dans le GN. Et notamment de toutes les phases de préparation. Parce qu'en gros.
Ateliers.
Ouais,
les ateliers.
Appellent
les ateliers.
En gros, tout bêtement, quand tu dis j'ai deux joueurs qui se connaissent moins, deux joueurs qui se connaissent plus, naturellement c'est compliqué de jouer de l'intime avec quelqu'un que tu connais pas. Et si t'arrives à briser la glace avant, tu vois, tu prépares le terrain.
Alors moi j'en ai fait deux des GN, donc je ne sais pas si c'est parce que les ateliers. l'IA n'était pas très bien fait ou si c'est parce que c'est moi. Mais ça n'a pas suffi à me pousser à jouer de l'intime.
Il y a aussi une question d'échelle. Vous étiez combien dans votre gène? Moi, les gènes que dont j'ai en tête pour c'est ça, vrai. C'est des gènes où ils sont pas très nombreux. Okay.
Quand on avait fait celui de c'est Stevie, je crois, celui qui a fait une vérité universellement reconnue. Là, il y a des ateliers qui sont intégrés au jeu, notamment pour apprendre à recevoir un compliment, par exemple, ce qui n'est pas forcément évident. Et je pense que heureusement que je connaissais les gens avec qui on a joué, parce que c'est pareil, D'accord. Ça n'a pas été évident non plus pour moi.
Moi après, je ne dis pas que c'est un absolu, tu vois, je ne dis pas qu'une fois que tu le fais, c'est bon, tu joues de l'intime, mais au moins, tu as quelque chose qui aide à briser la glace.
Tout à fait.
Tu donnes une chance au jeu, quoi.
Je trouve que c'est pertinent de parler des ateliers GN.
Je sais pas si dans le jeu de rôle, tu vois, dans les jeux de rôle qui parlent d'intime, c'est le cas. Parce que moi, j'en ai pas souvenir.
Il y a quelque chose que je trouve essentiel à dire à ce stade. C'est qu'en fait, pourquoi moi, il n'y a pas d'atelier préparatoire à mes jeux de rôle, c'est parce que je fais des campagnes. Et que pour moi, en fait, l'atelier préparatoire de la campagne, c'est le scénario numéro un. Sens Renaissance, c'est l'atelier préparatoire de... C'est pour ça que Sens Mort arrive après Sens Renaissance, si j'ose dire. Parce qu'il y a une espèce d'évolution. Et que Sens Néant arrive après Sens Mort aussi. C'est qu'il y a une espèce d'évolution dans les profondeurs qu'on peut atteindre avec une table parce que ça fait longtemps qu'on voyage ensemble. C'est comme ça, d'ailleurs, que Sens Néant le définit. L'harmonie des ombres, c'est ça. C'est l'idée que, parce qu'on voyage depuis longtemps ensemble, on va pouvoir... sans parler, communiquer beaucoup plus de choses, etc. Tu voulais ajouter quelque chose, là? Non,
okay. Je me rongeais les ongles.
Excuse-moi. Donc, la campagne en elle-même, campagne de jeu de rôle, pourquoi autour de la table, là, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la campagne est notre mode de jeu favori, hein, il me semble, Adrien. Alors, ça dépend pour quel...
Moi, je suis partagé, non?
Ouais, parce qu'il y a des one-shots qui sont très bons, comme My Centipede Boyfriend, par exemple, qui, je sais pas, se prêtent énormément à la campagne, mais...
Mais j'avoue que moi, je préfère la campagne.
Alors, attends. Enfin, voilà, c'est ça, c'est...
J'ai compris.
On est d'accord que...
Vous habitez à Saint-Malo, j'espère que vous préférez la campagne.
Oui, c'est vrai.
En fait, mais c'est vrai qu'on a tendance, autour de cette table, on a fait l'appel de Cthulhu ensemble. Vous deux, je vous ai vu débriefer à la cellule un nombre de campagnes incalculable. Vous êtes sans doute mes deux podcasteurs les plus fidèles en campagne. Podcast en campagne, je suis sûr que vous êtes dans un je me demande...
Mais j'ai pas l'impression d'en avoir 100% des podcasts en campagne. En plus, mais
c'est le principe d'une campagne, tu la commences, mais tu sais jamais si tu la finis.
Natacha, je t'ai entendu dire que ce que tu kiffes...
Ah oui, par contre, autant Adrien était très sceptique là-dessus, oui. Moi autant c'est absolument voilà. 100%
et
certain.
Et moi pareil, tu vois. Et pourquoi? Parce que justement, à mon avis, il y a dans le dispositif de la campagne, de la mise en place longue, du long terme et tout, il y a quelque chose qui est propre à faire surgir de l'intime. À mon avis, et donc qui va nous permettre d'avoir l'héroïsme dont nous parlait Flavie tout à l'heure.
Non, mais c'est intéressant le parallèle que tu fais effectivement entre les ateliers et la première partie d'une campagne effectivement
ouais.
Sur les ateliers GN et l'antichambre en fait.
Et pour autant, j'ai l'impression que dans Trip to Sky, là, ça fait quand même 10 scénarios ou 8 scénarios qu'on fait avec la table, et j'ai l'impression que ce n'est pas encore propice à l'émergence de quelque chose de très très intime. Et ouais. alors il y a aussi autre chose, Fly, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec Valentin, Jérémy et Johan, donc qui sont les trois autres joueurs avec qui tu joues à Trip to Sky, sur ce que c'est l'intime. Parce que Johan, je peux te jurer que Johan, les scènes d'introspection qu'il fait, il y a énormément d'intimité.
Ah, mais je sais pas si tu dis qu'on n'est pas d'accord, je suis pas d'accord avec toi.
pas d'accord, des fois je suis d'accord.
Voilà. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai dit l'intime, c'était en gros, évidemment qu'il fait des scènes d'intime. C'est juste que son intime est beaucoup plus intériorisé que moi, l'intime que j'ai envie d'explorer. Mais, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je me posais des questions là-dessus. Mais quand tu dis qu'on n'est pas d'accord, non, parce que quand on en parle,
c'est très clair. Il y a un autre cas aussi où j'ai vu que l'intime avait énormément de mal à surgir, c'est avec les enfants.
Ouais,
quand j'ai joué à Trip to Sky avec les enfants, je me suis rendu compte que en fait, les tables avec des enfants...
En présence de joueurs enfants ou en présence d'enfants dans la fiction?
Alors, les deux. Quand je joue qu'avec des enfants, il n'y a pas d'intimité. Les enfants, à Trip to Sky, ils prennent les problèmes, ils attendent la scène d'action. La scène de discussion, ils la zappent.
Ton film, il est nul, papa, il n'y a pas assez d'action.
Exactement.
Ouais, exactement, tout à fait. Non, mais c'est intéressant quand même à noter. Et il y a un autre élément, c'est que Soren joue avec nous à la table de Trip to Sky.
Ah bah, enfin, j'attends qu'il soit couché pour faire ce genre de scène.
Oui, mais du coup, elles ne peuvent pas surgir de façon naturelle. Tu es obligé d'attendre le moment pour le faire. Et voilà une des autres conditions, à mon avis, de possibilité de surgissement de l'intime. C'est que justement, elles surgissent de façon naturelle. Qu'elles ne soient pas artificielles.
Du coup... quand tu dis j'attends qu'il soit couché pour ce genre de scène, ça dépend. Du coup, ça rétrécit un peu la définition que je mettais derrière l'intime. Parce que pour moi, juste passer du temps avec une personne seule à seule.
Non, mais même ça, c'est de l'intime. Mais Soren, en fait, il est à côté de toi, il te regarde et il fait mais quand est-ce qu'il y a la scène d'action, maman ?
Quand est-ce qu'il y a la scène d'action où on tape le mec avec un coup de fouet, tu vois ? Quand est-ce qu'on fait les sauts périlleux arrière ?
Quand même, la dernière fois, on rencontrait le grand bad guy ou la grande bad guy, je ne dirais pas le. Et en fait, Soren, pourtant, c'est hyper cool. Je veux dire, on rencontre le truc qu'on attend depuis le début du jeu. Enfin, bon, on lui pète la gueule, là, ou quoi? T'as là, non, mais s'il te plaît, parle gentiment, parle correctement, en fait. Et il fait, bah oui, mais là, je m'ennuie. T'as là, mais elle est en train de nous révéler les secrets du jeu. Bah oui, mais j'ai envie d'une scène d'action.
Il aime bien les secrets quand même, mais pas, tu vois, c'est ça, il aime bien l'information, mais pas l'émotion.
Oui. C'est ce que je veux dire. De toute façon, en plus, Soren, il a un petit souci avec la gestion de l'émotionnel, hein, donc.
Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré tout, avec les enfants aussi, il y a une limite à cet endroit-là. Donc ça veut dire...
Par exemple, quand tu joues avec mon neveu, tu sais très bien qu'il n'y aura pas d'émotionnel. Hein. Sinon, il va aller lui couper les jambes dans la fiction.
Ouais. Mais c'est intéressant.
Donc là, tu parles des enfants autour de la table et tu disais qu'il y avait aussi le même chose quand il y a les enfants dans la fiction.
Alors, dans la fiction, alors là, c'est différent. Non. Je pensais autour de la table que des enfants ou un enfant autour de la table.
Ah non, voilà, tu parlais d'enfants, mais sauf que c'était pas très clair. Alors, les enfants dans la IRL ou les enfants.
Moi, je te parlais des joueurs, de participants enfants. Pour les enfants dans la fiction, là, il nous faudrait notre Vivien de combat, Vivien Féasson, pour savoir là, qu'est-ce...
Il est encore en train de perdre des gamins sous la pluie, là.
Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est la personne à la cellule qui a le plus d'expérience de jouer avec...
Maltraitance d'enfants fictionnels,
quoi. Oui,
mais bon, moi, pour l'avoir souvent joué, en fait, parce que j'ai souvent pris le fait d'avoir des enfants à charge, même hors agone, et à chaque fois, ça pose problème aussi. C'était une scène qui embêtait tout le monde, en fait.
Peut-être que...
Après, c'est pour reprendre De Billets d'acier et Perdu sous la pluie, si tout le monde joue des enfants, et que ce sont des adultes qui les jouent, il y a aucun souci pour mettre des histoires d'amour, des histoires d'amitié, puisque de toute façon, au contraire, justement, ces deux jeux sont basés là-dessus, donc sur les relations, les histoires de relations. Interpersonnel entre enfants et adolescents ensuite, quoi.
Ouais.
Donc sans pour Libreté, sans aller forcément jusqu'aux scènes de sexe, t'as quand même des scènes intimes de d'ados qui se découvrent, qui apprennent à se connaître, qui discutent, c'est aussi d'ailleurs.
Ce que j'ai pu voir, moi, c'est que souvent en plus ça enquiquinait aussi parce qu'on s'éloignait finalement de l'histoire dite principale.
Voilà.
Et que du coup, c'était pas le moment, c'est mal.
Ouais. Ça, j'ai l'impression qu'on revient sur ce que disait Romaric de toi, Flavie, dont tu voulais parler, c'est plus les scènes de surgissement d'intime dans des jeux qui sont pas forcément prévus pour.
Voilà.
Bah, et ou dans les jeux qui sont prévus pour aussi. Enfin,
oui,
tu vois,
c'est vrai que Trip to Sky prévoit le surgissement de l'intime.
Si ça fait chier les gens. En fait. Si ça fait chier les gens, soit le jeu n'était pas clair sur le fait que l'intime avait sa part dans le jeu, et donc c'est un défaut du jeu, malheureusement.
C'était clair.
C'est très clair.
Soit il y a un défaut de contrat social auquel il y avait trois quarts
des
gens.
Non, ou alors il y a aussi le fait que des fois tu te dis que ça va aller, mais du coup, ça arrive, souvent je lâche l'affaire, en fait.
Il y a un autre truc aussi dont on n'a pas parlé, Fly, mais c'est qu'il faut qu'on se méfie de ses propres sentiments aussi. Moi, le nombre de fois où j'ai eu l'impression de faire chier les gens autour de la table avec une thématique,
alors qu'en fait,
ça les intéressait à fond. En fait, un des problèmes du jeu de rôle, dont on ne parle pas assez souvent, c'est que comme on est tous dans une position de brainstorming, de réflexion sur les propositions...
Et que la plupart des rôlistes ont une tête de con, donc en fait, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent, en fait.
Mais surtout, regardez votre tête quand vous réfléchissez, quoi.
Bah ouais.
Enfin, vous avez
on dirait que vous êtes constipé, quoi. Voilà.
Quand on réfléchit...
Quand je faisais les colos jeux de rôle et qu'il fallait qu'on prenne des photos pour les envoyer aux parents, je me disais, mais c'est tellement pas photogénique.
C'est horrible.
Les gars, on l'air de se faire chier à fond, alors qu'en fait,
ils sont à fond dedans.
Ouais, c'est ça.
Donc en fait, c'est ça aussi. Et donc parfois, toi, tu vas faire une scène d'intimité en fait, tu vas regarder tout le monde autour, ça se trouve, ça les fait tous triper, ouais, ils sont tous en train d'imaginer des trucs. Et toi, en fait, tu te retrouves... Moi, très souvent, j'ai cette position-là en tant qu'MJ. Je sais pas si ce que je raconte, ça intéresse les gens ou pas, parce que quand je regarde... Et souvent, à la fin de la partie, j'interroge la vie en mode très anxieux, en mode « Mais ça vous a plu, vraiment ? Enfin, t'as trouvé ça intéressant, tu t'es pas ennuyé ?» Et puis, je suis hyper... Et Flavie fait « Mais arrête, hein, après des années, tu te fais encore avoir. »
Moi, j'ai fait pareil quand j'ai fait jouer l'Orient Express, mais c'est parce que j'ai vraiment, vraiment l'impression de les faire chier.
Encore autre Alors, chose. Des fois, c'était pas qu'une impression, mais c'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute, on le sait.
Donc voilà, mais tu vois, donc l'idée aussi, Flavie, c'est qu'à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas de l'autocensure de ta part ?
Ouais, c'est si possible. Ça se trouve, hein.
Ils sont très intéressés par ça. Et alors la question devient.
Il faudrait que je leur pose la question.
Alors voilà, alors, d'abord, pour résoudre ce problème à cette table-là, mais la question du coup que tu te poses devient pourquoi dans certaines tables s'auto-censure-t-on pour faire surgir l'intime ? Tu vois, pourquoi dans certaines tables, on n'ose pas
pour
y aller
pour ne pas faire surgir l'intime.
Voilà, tu vois, pourquoi est-ce qu'on s'auto-censure, entre guillemets ? Et d'ailleurs, à n'importe quel niveau, pas qu'au niveau de l'intime. Il y a plein de moments où, moi, à des tables, je me suis auto-censuré pour des tas de raisons.
Bah, ça doit rejoindre les trois peurs dont parle Frédéric Sintès.
La peur des clowns, la peur du noir.
Attends, non, 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 c'est pas Fred, c'est Adrien, je crois, le premier qui m'a parlé de ce truc-là.
Ah bon ?
Oui, c'est du théâtre d'improvisation. La peur du ridicule, la peur du sexe et la peur de dire un truc pas intéressant.
Ça me dit rien, mais peut-être.
Pour moi, c'était Fred Sintès, mais...
Ok, bah, très bien. Bah, alors, rendons à Frédéric. pour moi, ça vient de toi, Adrien, mais je peux le trouver. Oui. Quand on avait parlé du théâtre d'impro, une des premières fois où on s'est rencontrés, tu m'avais dit, voilà, il y a trois... Ou peut-être... Non, c'est peut-être Fabien. Hein.
Bon, ouais, il y a quelqu'un qui a parlé de ça, en tout cas.
Et de toute façon, je crois que ni les uns ni les autres, c'est une théorie. Je crois que c'est un truc qui est très connu.
De toute façon, à notre âge, les souvenirs, ça fait longtemps qu'on les mélange.
C'est pas faux. Mais de toute façon, il doit y avoir
des sources. Pas de soucis, Fred. Pardon, Adrien.
Il doit y avoir des sources là-dessus. La cellule est devenue une entité pensante. Les cerveaux sont connectés.
C'est une ruche.
Les migos.
Donc, toujours est-il que. Il y avait ces trois peurs, effectivement. Peut-être que elle c'est lié à ça, mais moi je crois pas, parce que c'est pas moi, j'ai jamais justement, je connais ces trois peurs là, je saurais les reconnaître. Non, c'est plus parfois t'as peur de déranger, la peur de déranger.
Bah, c'est la peur de dire quelque chose d'intéressant.
Ah non. Ah oui, ok. Ouais, c'est vrai que tu peux. C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'on est plus dans le sens de où Adrien le disait tout à l'heure. C'est-à-dire la peur d'être à côté de la plaque au sens où c'est pas ce que je propose. Tu vois ce que je veux dire ?
Ah oui, d'accord.
C'est un petit peu différent quand même que la peur de ne pas. Mais ça se rejoint. Je suis d'accord avec toi que c'est très proche.
Que c'est proche. Hein.
Ouais, c'est très très proche. Mais c'est une idée qu'en gros, tu vas dire un truc qui toi te ferait triper, mais tu te dis ah, c'est ni le jeu ni le moment. C'est pas le bon jeu pour dire un truc. Et donc, ou alors c'est pas le bon contrat social, c'est pas le bon moment, ou etc. Mais je pense qu'encore une fois, la table dont tu parles là et l'empêchement du surgissement de l'intime dans cette table précise là, il y a Valentin. En fait, si tu retraces un peu la partie, il y a Valentin qui a galéré avec le système, qui a eu du mal en fait à comprendre ce qu'on lui demandait au tout début du jeu. Donc ça a été un premier frein. Ce qui arrive très souvent hein, dans Trip to Sky. Il y a des joueurs.
En fait, quand tu as l'habitude de jouer en mode traditionnel, exactement. C'est un peu compliqué de te dire c'est pas grave, ouais. Je vais pouvoir faire ce que je veux, YOLO.
Ça arrive très souvent. Valentin n'est pas le seul. Tommy aussi avait eu beaucoup de mal à appréhender le système.
Aurélien,
Guy a mis beaucoup de temps.
Alors fois, il disait, mais j'ai le droit de
et
faire ça.
Et là, on parle de vétérans, hein, on parle des gens qui ont joué à des jeux de rôle. Et Tommy, il a joué à des jeux de rôle anarchistes. Hein. C'est lui qui avait fait une traduction de Dogs in the Vineyard pour la Barreau et tout. Donc, et c'est lui qui nous avait ramené le jeu d'Avril Alder sur le Mapping Game.
Oui, c'est vrai.
Donc, vraiment, c'est des gens qui sont vétérans. Il y a un truc, bon, on n'a pas encore très bien compris pourquoi avec Flavie, il y a un truc, un blocage. Donc, il y a eu cet élément-là. Il y a le fait que Soren, effectivement, assiste à la moitié de la partie et que lui, tu sais très bien que ça va le faire chier qu'on parle de tes histoires d'amour avec Exhypnos. Donc, ça, c'est un deuxième élément. Donc, en fait, en gros, il y a plein de petits freins, en fait, dans cette partie-là, qui sont pas forcément liés au contrat social ou aux gens qui se trouvent là, mais qui sont des éléments un peu contingents, tu vois. Est-ce que tu as ressenti ça à d'autres tables ? Tu parlais de la table d'Agon.
Oui.
Voilà. Alors là, quel était le... Moi, j'ai une hypothèse.
Il y a aussi le fait de sortir de l'histoire principale, parce que en fait, Cédric, il avait ça finalement, mais à chaque fois qu'il perdait sa corde d'argent à laquelle il était attaché. Ou à chaque fois, il avait des remarques, des gars, « Ah non, tu vas pas encore nous faire chier avec ta corde d'argent. » Il disait, « Bah, faut quand même que j'aille la chercher, sinon mon perso, il est charclé. » Et donc, à chaque fois, on avait une demi-heure de Cédric qui va chercher la corde d'argent. Genre, Greyjoy se fait couper un morceau
Là, il y a eu une erreur de casting de la part de Yann Sully. Pour moi, en tant que maître de jeu, il aurait dû faire des ellipses à ce moment-là. Enfin, à mon avis, là, il y a une erreur de...
Oui, mais bon, tu vois ce que je veux dire. À chaque fois, bon, bah, il y avait des remarques, genre, ah, viens, allez, vas-y, joue ton truc.
Après, ça faisait Marie-Yann aussi de faire souffrir Cédric pour des raisons... des raisons intimes.
Entre les deux. Les deux, t'es content.
Bon, moi, je crois aussi que t'as été victime de sexisme, hein. Excuse-moi, oui, là, pour moi, c'est la première raison qui me vient à l'esprit. Je me souviens encore d'entendre certains joueurs dire « Oh, elle nous fait chier avec cette histoire d'amour !» Et c'était des mecs, hein, souvent, qui t'empêchaient de dire... voilà, parce que à l'époque, quand on joue dans les années 2000...
Mais être une meuf entourée de garçons, voilà. C'est un peu compliqué.
Et donc, il y a beaucoup de garçons qui estiment que les histoires d'amour, c'est pour les filles. Et nous, les mecs, on est là pour taper des quadrillas ou pour taper des trolls, etc., etc. Donc ça, il y a aussi eu cette dimension-là dans notre histoire passée. Aujourd'hui, fort heureusement, les mentalités ont évolué et tout ça n'arrive plus. Mais en tout cas, pas à la baronnie.
Putain, arrêtez de nous faire chier avec tes histoires d'amour à la con.
Non, mais c'était ça, hein. C'était ça.
On me l'a dit texto. Oh,
texto. Hein.
On m'a aussi dit, mais ça, c'était en convention. Mais non, mais t'es une fille, tu vas pas jouer un garçon avec une mitraillette. Tu vas jouer une fille qui a une histoire d'amour. Et ce jour-là, manque de bol, j'avais envie de jouer un gros russe avec une mitraillette.
Oui, le sexisme marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on imposait aussi aux femmes qui jouaient au jeu de rôle d'avoir des personnages qui, du coup, étaient liés... tu rigoles.
Je te jure.
En fait, à chaque fois, c'est pareil. Si tu refuses le sexe, bah, t'es une salope. Et puis, si tu veux du sexe, bah, t'es une salope. Mais c'est pas pareil.
Bon, là, en l'occurrence, c'était juste de l'intimité. Ouais. Hein. On attribuait naturellement au personnage féminin ça. Donc ça joue aussi dans ce podcast. Voilà, faut pas passer à côté de cette thématique-là. Même si aujourd'hui, heureusement, encore une fois, les mentalités ont évolué et les choses ont changé. Mais ça joue aussi. D'autres éléments de réponse sur le surgissement, évidemment il y a certaines règles qui l'encouragent, ça tu l'as bien dit Adrien, donc tu parlais aussi au début du podcast de cette histoire de caricature de l'intime, tu veux développer un petit peu cette idée-là,
qu'il arrivait du coup pour que ça aille vite que j'enfonce des grandes portes ouvertes pour que ça dure pas longtemps. Et que du coup, je fasse de la caricature de l'intime, genre oh je t'aime moi non plus, fais-moi un bisou, oh finalement ça va mieux, pof, puis on arrête. Ouais,
en gros, sans préliminaire quoi.
Ouais. C'est rapide et puis on
avec
se prend pas
la avec une grosse ellipse.
Ouais, exactement. Ouais. Et puis du coup,
mais
on n'a pas.
Ça te satisfait pas.
Bah non, parce que c'est pas du tout. On n'a pas vu comment ça s'était travaillé, comment les choses étaient venues doucement en fait. Et ce qui est rigolo, c'est que quand je joue, ça m'arrive aussi, des gros bourrins, je veux aussi caricaturer la personne sans intimité. Je peux caricaturer les deux.
J'ai l'impression que c'est une tendance générale de quand tu es dans une situation où tu n'as pas une profonde connaissance de ton personnage, on a tous tendance à jouer un peu à la caricature.
Ça, c'est clair. Mais par contre, pour Flavie, je sais pas. À chaque fois que tu as joué un gros bourrin, il a toujours fini par avoir des histoires d'amour. Le personnage de Triptuskay dont on est en train de parler là, c'est ton personnage de Lady Oscar.
C'était pas une bourrine.
Elle était pensée pour être une grosse bourrine, quand même.
Bah, si je m'inspire de Lady Oscar, j'ai forcément André en tête. Hein.
Ouais, d'accord, ok.
Okay, oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ça, y a aussi okay. Un imaginaire
derrière. André, et puis elle est amoureuse quand même du mec de l'amant de la reine. Enfin. T'as Lady Oscar en tête, tu vas pas faire un gros point.
Okay, okay, ouais,
c'est impossible.
Vrai, un point pour toi. Ouais, okay. Ah oui, tout à fait. Ok, donc en fait, il était pensé pour être un gros bourrin qui verrait justement sur genre de l'intime, et c'est un peu ce qui te frustre.
Le premier truc qu'il y avait sur ma fiche, c'est que j'étais amoureuse d'Exhypnos et que la relation était interdite.
Ouais.
Mon Dieu. Ouais. Non, le perso que j'avais pensé pour être bourrin, mais qui s'est avéré ne pas l'être, c'était mon perso, parce que j'ai trois persos à Triptuskay. Et c'était le perso qui était tourné vers l'intellectuel, où là j'avais pensé, bon je sais bourrin intellectuel c'est un peu bizarre, mais qui était censé devenir bourrin avec les livres. Et au final, il a quand même eu une relation masochiste avec son maître. Donc.
C'est marrant parce que je suis en train de me dire qu'en fait, en creux, ce que j'ai dit tout à l'heure comme étant les empêchements du surgissement de l'intime, si tu les retournes, en fait, ça fait aussi les conditions de possibilité du surgissement de l'intime.
Exactement.
C'est-à-dire, par exemple, il faut une connaissance des règles parfaites. Il ne faut pas que les règles du jeu et le système de résolution viennent te parasiter si tu veux faire
mais
de l'intime.
En même temps, sur cette table-là, ça faisait déjà trois campagnes que j'avais eues. Donc évidemment, moi, les règles, en fait, je les avais. Donc il était normal que j'ai envie d'avoir ce genre de choses dès le début, alors que les autres apprenaient le système. Et c'est pour ça qu'actuellement, eux, ils commencent simplement maintenant en fait, à faire des surgissements de l'intime, là où moi, du coup, je suis un peu plus loin.
Exactement, exactement. Et donc ça, c'est un élément essentiel en fait, de notre discussion, c'est de dire, mais attends, en fait, pour que l'intime surgisse,
Faut qu'on soit tous au même niveau d'apprentissage des règles.
Concentré, voilà, parce que s'il y en a un qui est en train d'apprendre le système de résolution, il ne peut pas penser. Ça, c'est un très bon élément. Et je pensais à ça aussi parce que dans notre campagne, on a un autre élément, c'est qu'on a une espèce de contrainte temporelle sur cette campagne parce que c'est la campagne principale qu'on fait pour playtester le jeu en X scénarios à un nombre donné.
D'où le fait que je t'ai demandé un scénar solo.
Voilà, donc de façon à la playtester rapidement pour voir ce que ça donne en fait. Donc c'est aussi un crash test, donc c'est normal. Alors que si on n'avait pas cette contrainte éditoriale du fait qu'il faille que la campagne soit finie avant
l'édition du jeu, la campagne.
Si on n'avait pas eu ça, eh ben on aurait pu prendre beaucoup plus notre temps. Et du coup, on aurait eu peut-être le temps de voir ce
que c'est génial. Moi, je le dis juste parce que en fait, j'ai 3 persos principaux, mais ça fait 4 campagnes que je fais. 4 persos principaux, mais 4 campagnes que je fais. Et à chaque fois, l'histoire ne se ressemble pas. C'est-à-dire que j'ai fait 4 campagnes de Trip to Sky qui n'ont rien à voir. Et donc, c'est très agréable d'y jouer parce qu'à chaque fois, y a de loin des trucs que je reconnais. Hein, mais à chaque fois, l'histoire est complètement différente et c'est génial.
Je repense à un autre truc, c'est cette histoire de temps aussi. C'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché à certains jeux, à certains story games ou à certains jeux de rôle en une page ou par exemple, je me souviens de critiques comme ça dans For the Queen. C'est-à-dire l'idée que si le jeu, il te dit tout de suite, fais une scène d'amour, fais une scène d'intimité, fais un truc comme ça, ça fonctionne pas très bien. En fait, en un sens, l'intime, c'est forcément quelque chose qui ne peut que surgir. On ne peut pas l'imposer.
Oui, puis il y a aussi un côté presque de contemplation. C'est-à-dire que cet intime va pouvoir surgir à un moment où l'action se pose, où on va pouvoir être...
Ça, je ne suis pas d'accord. Autant je suis d'accord avec la première affirmation, autant ça, je ne suis pas d'accord.
Donc plutôt que contemplation, à un moment où le rythme ralentit.
Non, l'intime peut être un moment super intense, au contraire. Enfin, c'est pas le même intime, mais ça peut survenir aussi là. Par contre,
quelle action, peut-être ?
Je parlais pas d'intensité, hein. L'intime peut être très intense. Je parlais vraiment de rythme, tu vois.
Il se passe ça, le moment où la neige.
C'est le moment entre contemplation et action plutôt que.
C'est le moment où la neige retombe dans les jeux boule à neige, en fait. Tu vois ?
Ça peut être aussi pendant le moment où tu secoues la boule à neige. Enfin,
Ah oui, d'accord, dans ce sens-là.
Non, par contre, je suis d'accord avec le fait que l'intime, c'est pas quelque chose que tu peux faire sur une scène de 10 secondes. Tu peux pas jouer un pic au jeu d'intime, tu vois.
Exactement. Enfin, moi, j'ai trouvé que sur la scène francophone, ces temps-ci,
c'est caricatural.
Il y avait une tendance à vouloir le drama tout de suite, le truc tout de suite, tu vois, le tout de suite. La question que je pose, je dis pas que c'est pas possible, je dis pas que ces jeux n'y arrivent pas, je dis pas que certains contrats sociaux de table ne peuvent pas permettre ça, attention, hein. Mais la question que je pose, c'est est-ce que c'est pas propice au surgissement de l'intime tel que Flavie l'entend là, tu vois. Dans sa thématique, il y a l'idée que aussi on est dans un autre temps, une action héroïque, machin truc. C'est plus un jeu d'aventure. En fait, c'est le surgissement de l'intime dans les jeux d'aventure. Ouais. C'est ça ton thème de podcast. On va réussir à trouver le titre du podcast à la fin du podcast quand même.
C'est bien. C'est bien. En même temps, j'avais prévenu que c'était un questionnement que j'avais, mais que j'y avais pas trop réfléchi.
Je réfléchis au podcast pas du tout avec cette thématique là en tête.
Et voilà, c'est pour ça que je te dis que c'est important de bien. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je cours après le titre parce que je vois bien que vous deux, enfin en tout cas toi certainement Adrien, t'as du mal à comprendre de quoi on discute parce que justement, tu as une vision beaucoup plus large du sujet.
Vous parler à 80% de Sky quoi, enfin de vos expériences de partie à tous les deux sur lesquelles nous on n'est pas, donc c'est compliqué
d'interagir
là-dessus.
C'est pour ça que je disais c'était casse-gueule comme sujet de podcast au début. Je disais bien attention parce que ça va être très lié.
Et puis je l'ai eu hier les sujets de podcast en tête, donc du coup
oui ça après c'est pas très
bon voilà souci, ça. Mais du coup alors donc reprenons cette question là est-ce que vous trouvez pas que il y a une volonté de plus en plus de vouloir avoir de l'intime, peut-être un peu trop rapidement, peut-être... Parce que moi, c'est une critique que personnelle...
C'est aussi une remarque que je me suis faite, et je sais pas si dans les jeux où ça marche, entre guillemets, c'est pas parce que les joueurs ont tellement une connaissance intime, mutuelle, a priori, qu'en fait, tu peux leur dire, vas-y, en 10 secondes, faites-nous une scène intime, et ils le font, en fait. Parce qu'ils l'ont fait la veille, ils l'ont fait il y a 5 jours, ils l'ont fait il y a 10
voilà.
jours...
Ouais.
Et c'est pas le jeu qui le fait, c'est les joueurs qui le font.
Donc d'où l'importance du contrat social, ouais. Encore une fois, et pas du jeu et des règles du jeu.
Mais sinon, oui, je suis d'accord que l'intime,
c'est quelque chose qui ne peut que
mais tu vois,
qui ne peut que venir avec un temps de construction qui est pas forcément, il est pas forcément très long ce temps-là, hein, parce que tu vas avoir des jeux plus ou moins courts, plus ou moins brefs. Tant que c'est pas la première scène, tant que t'as des éléments qui vont amener ça et qui ont de l'enjeu malgré tout, faut pas que ce soit du creux, faut pas que ce soit raconte pendant 10 minutes l'histoire de ton personnage, puis ensuite toi, et puis ensuite maintenant je joue une scène intime. Ça marche pas, bien sûr. Enfin, je vois pas comment ça peut marcher. Mais l'intime comme un des éléments d'un jeu qui est ouais sur lequel tu guides ton jeu au fur et à mesure, oui, bien sûr, c'est logique.
En fait, un élément de pourquoi For the Queen, pour moi, il est quand même critiquable sur ce point.
Mais For the Queen, c'est pas un jeu de rôle, en fait, ça aussi. Je pense que c'est un
non, pas ce débat.
Ben, c'est pas un débat, en fait.
Ah,
Natacha, je me trompe, hein, ou...
Est-ce qu'il a été son auteur? Comment son auteur le définit?
Je ne sais pas. Moi, je suis d'accord avec Adrien. Donc, du coup.
En fait, je pense qu'une des raisons qui font qu'on lui a fait un mauvais procès lors du podcast, c'est que nous, on s'attendait à jouer à un jeu de rôle avec tout ce que on peut sous-entendre derrière ça, qui est beaucoup d'interprétation aussi. Hein. Mais qu'en fait, on jouait à un jeu qui était plus proche de Il était une fois.
Pas à ce point-là, mais
qui était plus dans cette veine-là des jeux. Et donc, on l'a jugé à l'aune de quelque chose dont il n'est pas le pur héritier.
D'accord, ok. Alors, moi, tout ce que je voulais dire, alors peut-être que c'est loin de ce débat, hein, sur For the Queen, ce que je voulais te dire. Ce que je voulais te dire, c'est que si tu dis d'un jeu qu'il fait émerger de l'intime, et qu'en réalité, ce que tu disais tout à l'heure, il faut que la table se connaisse personnellement pour que l'intime émerge dans ce jeu, alors il manque quelque chose à la règle du jeu. Et ce quelque chose, c'est la règle de sens dans laquelle il est dit « N'emportez avec vous dans ce voyage que les gens dont vous êtes proches ». Donc si tu veux que For the Queen fasse de l'intime, mais que tu ne précises pas dans tes règles que tu dois y jouer avec des gens dont tu es déjà proche, je ne sais pas si c'est l'objectif de For the Queen. C'est un exemple, hein, For the Queen. C'est loin de moi l'idée de dire...
Je pense que le meilleur exemple là-dessus, c'est Romance érotique, hein.
Alors, excellent exemple. Vas-y, alors bah,
Romance érotique, tu joues de l'intime, mais t'as intérêt à être intime avec la personne avant, en fait, parce que sinon tu vas avoir un procès au cul, quoi.
Ouais.
D'accord, ok. Donc c'était le point. C'est compliqué, en fait. Dès qu'on touche au parallèle entre les règles et le contrat social, ça devient extrêmement technique comme discussion, parce que. Tu vois, la critique de dire que For the Queen dit « je vais faire de l'intime », mais en fait...
For the Queen dit ça ?
C'est pas ce que dit For the Queen. Et en plus, il faut faire attention à ne pas confondre avec les dérivés qui viennent de For the Drama, qui du coup là, accentuent justement l'aspect la recherche de drama, comme leur titre l'indique. Okay. Et je ne sais pas si For the Queen avait cette intention. En fait,
For the Queen n'avait pas cette.
Très, très bien.
For the Queen, on a tous une relation plus ou moins... dans mes souvenirs de jeu... Mais quand on crée le perso, on a plus ou moins une relation avec la reine, plus ou moins bénéfique ou maléfique, et, oui. entre guillemets. Mais ensuite, dans l'action, c'est pas ce qui va se passer.
Oui, tout à fait.
Va t'amener à choisir à un moment si tu la sauves ou pas.
J'ai probablement mal choisi mon exemple. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de jeux dans lesquels, en fait, un présupposé du jeu, c'est qu'il faut jouer avec des gens dont on est proche. Et ça, il y a très peu de jeux dans lesquels c'est écrit, en réalité.
C'est vrai.
Je suis désolé, mais moi, j'ai rarement joué. Alors, après, t'as l'extrême opposé, qui est les jeux d'Avery Alder. Donc, moi, je ne les ai pas lus, hein, mais c'est Vivien qui me disait ça, que dans les jeux d'Avery Alder, il y avait peut-être aussi trop d'énoncés qui portaient sur le contrat social. Genre, qu'il fallait préparer à manger à ses hôtes, les asseoir sur des fauteuils rembourrés et tout ça. Et là, il y a la question des limites de la règle. Qu'est-ce que la règle doit dire de comment on accueille les gens et tout ça. Enfin. Alors ça, c'est encore une autre question. Mais voilà, si tu veux préparer, si tu veux rendre possible le surgissement de l'intime, il y a aussi une espèce de condition qui est il faut que les joueurs, les participants autour de la table soient dans des relations d'intimité.
Oui, et qu'il n'y ait pas du coup de spectateurs et qu'il n'y ait pas...
Voilà. Et voilà, et là du coup, ça, voilà, c'est... Et en fait, deuxième élément, c'est ça, c'était ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui prétendent faire de l'intime, et qui ne prennent même pas le soin de mettre cela dans la base. Et donc, du coup, ça fait que quand ils sont joués en convention... Hurlement, par exemple.
Hurlement, je pense pas qu'il ait cette prétention-là, en fait. Hein. En fait, Hurlement, c'est, il fait partie aussi de ces jeux-là qui disaient pas, qui savaient pas exactement clairement ce qu'il vendait en fait aux gens.
Exactement. Non, mais tout à fait. Non, mais et peu importe, tu vois, je l'accuse pas. Hein. Attention, ouais, je suis pas en train de faire un reproche à Hurlement parce que il est tellement ancien que de toute façon, on peut rien lui reprocher. Il est tellement novateur à l'époque.
En fait, t'étais en train de, en fait, tu disais quand même qu'il y a des jeux qui disent faire de l'intime qui ne préviennent pas les gens. Sauf qu'en fait. C'est pas ce que dit Hurlement, tu vois. C'est peut-être un des trucs qui peut émerger parce que, de toute façon, le type de partie encouragée par Hurlement est assez flou. Donc, tout peut avoir lieu. En fait, c'est la même chose que si tu me disais, dans Vampire, il peut y avoir des scènes d'intimité et rien dans le jeu te dit choisissez des joueurs d'intime. Mais oui, mais en même temps, dans Vampire, t'as des gens qui jouent pour jouer des gros bourrins qui vont tuer des loups-garous, des gens qui jouent pour jouer la cour et la politique et qui font que ça, des gens qui vont pour jouer de la romance entre vampires. Donc, oui, enfin, tu peux pas reprocher à Vampire de ne pas avoir précisé ça, vu que tout le monde fait tout et n'importe quoi avec Vampire.
Mmh, bien sûr, bien sûr.
Tu vois ce que je veux dire, c'est un mauvais procès d'intention. Par contre, si tu pouvais me le dire, si tu pouvais me dire pour un jeu type This game contains absolutely no triggering material, et dire là-dessus, où typiquement on va parler d'intime et d'un intime qui est un peu malsain,
ouais.
Et on prévient pas les joueurs de ce que contient le jeu et de voilà. Oui, là, ça serait problématique. Mmh. Moi, j'ai pas cette impression-là. Mmh.
Enfin voilà, c'est en tout cas c'est une question que je soulève, une question que je pose, c'est jusqu'où est-ce qu'un jeu peut être prévu pour jouer de l'intime, sachant que de toute façon beaucoup de choses vont aussi reposer sur, enfin jusqu'où les règles peuvent garantir de jouer de l'intime à partir du moment où tout ça repose sur le contrat social.
Mais au final c'est vrai de tous les jeux et au-delà de l'intime, jusqu'où un jeu peut dire qu'on va jouer de l'héroïsme vu que ça repose sur la volonté de faire de l'héroïsme des joueurs.
J'ai l'impression qu'un jeu où il va y avoir de l'intime et où c'est au centre du jeu, soit l'auteur en est très conscient et du coup en fait ça transparaît partout, soit s'il y en a et que c'est pas prévu, c'est que c'est accidentel en fait et du coup bon ben
très bien. Ok, non mais voilà,
je sais pas, enfin
non mais après vous avez aussi le droit de me répondre que cette question vous intéresse pas.
Si c'est conscient dans le jeu que c'est attendu et qu'au final ça n'a pas lieu, la seule chose que l'auteur peut dire c'est du coup vous n'avez pas joué à mon jeu.
Vous avez ou alors à cette partie-là, vous avez exploré d'autres parties de mon jeu.
Bon, ça je sais pas. C'est un débat très 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 compliqué. Juste un. Non mais ok voilà. Flavie, est-ce qu'on a fait le tour du sujet?
Oui, moi j'ai plein d'idées, plein de choses pour mes prochaines parties, donc c'est parfait.
D'accord,
c'est
ok.
Que j'attendais de ce. Cool. De ce... Okay.
Ce qui est marrant, c'est qu'on a passé beaucoup de temps à essayer de définir ce que tu voulais dire, mais au final,
c'est
un peu l'objet
fallait,
du podcast.
Voilà.
J'ai l'impression que c'est l'objet de beaucoup de podcasts où, en fait, on ne sait pas encore exactement de quoi on veut parler tant qu'on n'a pas
En fait,
creusé.
J'ai deux types de podcasts que j'amène. Des podcasts où j'ai vraiment préparé le sujet et tout, et généralement, c'est rapide. Et des podcasts où j'ai juste un petit questionnement qui vient de surgir et j'aurais besoin d'aide pour pouvoir le définir. Et là, ça y est, il a été défini. Peut-être que ça veut dire que dans 6 mois, j'aurai un podcast travaillé.
Après, voilà, si je veux faire parler les gens qui me déteste, je peux dire est-ce que le jeu de rôle virtuel en ligne à travers des ordinateurs c'est propice au surgissement de l'intime ou pas?
Bah écoute, le sexe à distance ça existe, donc pourquoi pas.
Oui, non.
Moi je connais des gens qui te répondraient que ça ne l'empêche pas en tout cas.
Et moi, je connais même des gens qui le font et qui l'en font. Exactement. Parce que justement il n'y a pas de spectateurs.
Ils n'ont pas supporté l'odeur de sueur des gens à côté.
C'est ça. Il n'y a pas les yeux.
Et tu es derrière, exactement, tu es derrière un écran. Et donc, peut-être que finalement, le jeu de rôle virtuel pourrait faire surgir des types de scènes intimes particulières. Ou, voilà. Ça, non, mais c'est intéressant, ça aussi.
Voilà. Ils ne vont pas pouvoir te dire du mal de toi.
Parce que pour une fois, je dis du bien du jeu. Non, mais ah ouais, j'ai même pas dit du bien du jeu de rôle virtuel. J'ai dit que ça pouvait encourager quelque chose de particulier. Je n'ai aucun jugement de valeur sur le jeu de rôle virtuel.
C'est juste pas ta pratique.
C'est juste pas ma pratique, exactement. Je ne juge pas les gens qui font du jeu de rôle, contrairement à ce qu'on affirme de moi sur les réseaux sociaux. Je ne juge pas les gens qui font du jeu de rôle en ligne. Ils font ce qu'ils veulent. Je dis, ce n'est pas ma pratique. Et j'ai tout un tas d'arguments pour justifier pourquoi ce n'est pas ma pratique.
Mais
après,
que c'est cool si c'est la pratique d'autres personnes.
Exactement, qu'ils le fassent. Voilà. Mais voilà, la question du jeu de rôle virtuel et de l'intime...
Mais je pense que c'est propice.
M'intéresse. Ouais. Mais là, il faudrait peut-être aussi des joueurs qui aiment jouer en ligne autour de cette table.
Bah, vous jouez en ligne quand même.
Pas tant que ça. Des jeux qui pour moi, ne demandent pas beaucoup d'investissement.
Vas-y, jette un dessin.
Ouais, c'est ça. Non, mais
changer de scène ou pas.
Tu vois, justement, toi, Natacha, t'aurais une réponse qui serait plutôt du genre quand un jeu peut faire surgir de l'intime, je préfère autant y jouer avec IRL, peut-être.
Ah oui, non mais de toute façon, oui, c'est ça. C'est parce que voilà.
De toute façon, je préfère jouer au jeu de rôle IRL.
Oui, donc dans tous les cas, voilà, je préfère jouer en vrai. Et donc le confinement a fait que on a poursuivi une campagne de Cthulhu à distance, mais c'est parce que c'était Cthulhu, quoi. Enfin.
Ah oui, oui. Voilà. Oui. On connaît ton amour singulier pour Cthulhu, on dira ça comme ça. En tout cas, voilà, si vous voulez poursuivre ce débat dans les commentaires et sur les réseaux sociaux, moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis et votre ressenti sur ce que le jeu de rôle en ligne apporte sur cette thématique de l'intime. J'aimerais bien savoir si ça change quelque chose ou quoi. Voilà. S'il fallait ouvrir le podcast, que là, on n'est pas armé pour en parler, mais si vous, dans les commentaires, vous l'êtes, n'hésitez pas à discuter de ça, ça m'intéresse. Voilà, merci beaucoup, Flavie, pour ce sujet.
De rien, c'était Foutrac, désolé.
Adrien et Natacha. Même si effectivement, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Trip to Sky, mais voilà. Merci d'avoir été à ce podcast. Tu nous prépares ce podcast sur l'amour courtois, sur les emballages de produits.
L'amour courtois sur les emballages de produits.
Ah oui.
J'adore.
L'avantage, c'est que tu viens de gagner beaucoup. 2 heures de préparation, quoi. Parce que du coup, il n'y a plus aucun sujet de discussion.
Exactement.
Donc ça va très vite, quoi.
Allez, à bientôt tout le monde. Portez-vous bien.
Salut.
Des bisous confinés.